Chapitre 3 La Gitanita. Je pleure souvent, ma mère, depuis que je suis grande. Mais je suis faite comme les enfants. Le sourire chez moi n'attend pas les larmes séchées. Vous vous êtes dit peut-être déjà, en lisant ce bavardage incohérent, mes impressions de bataille, l'histoire des deux Hidalgo, l'oncle Don Miguel et le neveu Don Sanche, mes premières études dans un livre d'escrime, le récit de mes pauvres plaisirs d'enfant. Vous vous êtes dit peut-être, c'est une folle. C'est vrai, la joie me rend folle, mais je ne suis pas lâche dans la douleur. La joie m'enivre. Je ne sais pas ce que c'est que le plaisir mondain, et peu m'importe. Ce qui m'attire, c'est la joie du cœur. Je suis gaie, je suis enfant, je m'amuse avec tout. Hélas, comme si je n'avais pas déjà bien souffert. Il fallut quitter Pampelune, où nous commencions à être moins pauvres. Henri avait même pu amasser une petite épargne, et bien lui en prit. Je pense que j'avais alors 10 ans ou à peu près. Il rentra un soir, inquiet et tout soucieux. J'augmentai encore sa préoccupation en lui disant que tout le jour, un homme, enveloppé d'un manteau sombre, avait fait sentinelle dans la rue sous nos croisées. Henri ne se mit point à table. Il prépara ses armes et s'habilla comme pour un long voyage. La nuit venue, il me fit passer à mon tour un corsage de drap et me laça mes brodequins. Il sortit avec son épée. J'étais dans les transes. Depuis longtemps, je ne l'avais pas vu si agité. Quand il revint, ce fut pour faire un paquet de ses hardes et des miennes. « Nous allons partir, Aurore, » me dit-il. « Pour longtemps ? » demandai-je. « Pour toujours. Quoi ? » m'écriai-je en regardant notre pauvre petit ménage. « Nous allons laisser tout cela ? » ?»« Oui, tout cela, » fit-il en souriant tristement. « Je viens d'aller chercher au coin de la rue un pauvre homme qui sera notre héritier. Il est content comme un roi, lui. Ainsi va le monde. » « Mais où allons-nous, ami ? » demandai-je encore. « Dieu le sait, » me répondit-il en essayant de paraître gai. « En route, ma petite Aurore, il est temps. » Nous sortîmes. Ici se place quelque chose de terrible, ma mère. Ma plume s'est arrêtée un instant, mais je ne veux rien te cacher. Comme nous descendions les marches du perron, je vis un objet sombre au milieu de la rue déserte. Henri voulut m'entraîner dans la direction des remparts, mais je lui échappai, embarrassé qu'il était par son fardeau, et je m'élançai vers l'objet qui avait attiré mon attention. Henri poussa un cri. C'était pour m'arrêter. Je ne lui avais jamais désobéi, mais il était trop tard. Je distinguai déjà une forme humaine sous un manteau, et je croyais reconnaître le manteau de la mystérieuse sentinelle qui s'était promenée sous nos fenêtres durant tout le jour. Je soulevai le manteau. C'était bien l'homme que j'avais vu dans la journée. Il était mort et son sang l'inondait. Je tombai à la renverse, comme si j'eusse reçu moi-même le coup de la mort. Il y avait eu combat, là, tout près de moi, car en sortant, Henri avait pris son épée. Henri avait encore une fois risqué sa vie pour moi. Pour moi, j'en étais sûre. Je m'éveillai au milieu de la nuit. J'étais seule, ou du moins je me croyais seule. C'était une chambre encore plus pauvre que celle dont nous sortions. Cette chambre qui se trouve d'ordinaire au premier étage des fermes espagnoles dont les maîtres sont de pauvres hidalgos. Il y avait un bruit de voix à peine sensible dans la pièce située au-dessous, sans doute la salle commune de la ferme. J'étais couchée dans un lit à colonnes vermoulues, sur une paillasse recouverte d'une serpillière en lambeaux. La lumière de la lune entrait par les fenêtres sans carreaux. Je voyais en face du lit le feuillage léger de 2 grands chênes liège qui se balançaient doucement à la brise nocturne. J'appelai doucement Henri, mon ami. On ne me répondit point. Mais je vis une ombre qui rampait sur le sol, et l'instant d'après, Henri se dressait à mon chevet. Il me fit signe de la main de me taire, et me dit tout bas à l'oreille. « Ils ont découvert nos traces. Ils sont en bas. »« Qui donc ? » demandai-je. « Les compagnons de celui qui était sous le manteau. » »« Le mort. » Je me sentis frémir de la tête aux pieds, et je crus que j'allais m'évanouir de nouveau. Henri me serra le bras et reprit. « Ils étaient là tout à l'heure, derrière la porte. Ils ont essayé de l'ouvrir. J'ai passé mon bras comme une barre dans les anneaux. Ils n'ont pas deviné la nature de l'obstacle. Ils sont descendus pour chercher une pince, afin de jeter la porte en dedans. Ils vont revenir. « Mais que leur avez-vous fait, Henri, mon ami ? » m'écriai-je, pour qu'ils vous poursuivent avec tant d'acharnement. « Je leur ai arraché la proie qu'ils allaient déchirer, les loups, » me répondit-il. « Moi, c'était moi. Je le comprenais bien. Cette pensée m'emplissait le cœur et le navrait. J'étais cause de tout. J'avais brisé sa vie. Cet homme si beau naguère, si brillant, si heureux, se cachait maintenant comme un criminel. Il m'avait donné son existence tout entière. Pourquoi ? Père, lui dis-je, père chéri, laissez-moi ici et sauvez-vous, je vous en supplie. Il mit sa main sur ma bouche. Petite folle, murmura-t-il, s'il me tue, je serai bien forcé de t'abandonner. Mais ils ne me tiennent pas encore. Lève-toi. Je fis un effort pour obéir. J'étais bien faible. J'ai su depuis que mon ami Henri, harassé de fatigue, car il m'avait porté dans ses bras, demi-morte que j'étais, depuis Pampelune jusqu'à cette maison éloignée, était entré là pour demander un gîte. C'était de pauvres gens. On lui donna cette chambre où nous étions. Henri allait s'étendre sur une couche de paille préparée pour lui, lorsqu'il entendit un bruit de chevaux dans la campagne. Les chevaux s'arrêtèrent à la porte de la maison isolée. Henri devina bien tout de suite qu'il fallait remettre le sommeil à une autre nuit. Au lieu de se coucher, il ouvrit tout doucement la porte et descendit quelques marches de l'escalier. On causait dans la salle basse. Le fermier en haillons disait « Je suis gentilhomme, et je ne livrerai pas mes hôtes. » Henri entendit le bruit d'une poignée d'or qu'on jetait sur la table. Le fermier gentilhomme eut la bouche fermée. Une voix qu'il connaissait ordonna « À la besogne, et que ce soit bien vite fait !» Henri rentra précipitamment et referma la porte de son mieux. Il s'élança vers la fenêtre pour voir s'il y avait moyen de fuir. Les branches des deux grands lièges frôlaient la croisée sans carreaux. C'était un petit potager, clos d'une haie. Au-delà, une prairie, puis la rivière d'Arga, que la lune montrait au travers des arbres. On montait l'escalier. Henri remplaça la barre absente par son bras qu'il mit en travers. On essaya d'ouvrir, on poussa, on pesa, on jura, mais le bras d'Henri valait une barre de fer. « Te voilà bien pâle, ma petite Aurore, » reprit Henri quand il me vit lever. « Mais tu es brave, et tu me seconderas. »« Oh oui !» m'écriai-je, transporté d'aise à la pensée de le servir. Il m'entraîna vers la fenêtre. « Descendrais-tu bien dans le verger par cet escalier-là » me demanda-t-il en me montrant les branches et le tronc de l'un des lièges. « Oui, » répondis-je. « Oui, père, si tu me promets de me rejoindre bien vite. » « Je te le promets, ma petite Aurore. Bien vite ou jamais, pauvre chérie, » ajouta-t-il à voix basse en me prenant dans ses bras. J'étais bien ébranlée. Je ne compris point. Ce fut heureux. Henri ouvrit le châssis au moment où les pas se faisaient entendre de nouveau dans l'escalier. Je m'accrochais aux branches de liège, tandis qu'il s'élançait vers la porte. « Quand tu seras en bas, me dit-il encore, tu jetteras un petit caillou dans la chambre. Ce sera le signal. Ensuite, tu te glisseras le long de la haie jusqu'à la rivière. » J'étais encore tout contre la fenêtre lorsque j'entendis le bruit de la pince qu'on introduisait sous la porte. Je restais. Je voulais voir. « Descends, descends !» fit Henri avec impatience. J'obéis. En bas, je pris un petit caillou que je lançai par l'ouverture de la croisée. J'entendis aussitôt un sourd fracas à l'étage supérieur. Ce devait être la porte qu'on forçait. Cela m'ôta mes jambes. Je restai cloué à ma place. Deux coups de feu retentirent dans la chambre, puis Henri m'apparut debout sur l'appui de la croisée. D'un saut, et sans céder du liège, il fut auprès de moi. « Ah, malheureuse ! » fit-il en me voyant. « Je te croyais déjà sauvée ! Ils vont tirer !» Il m'enlevait déjà dans ses bras. Plusieurs détonations se firent entendre à la croisée. Je le sentis violemment tressaillir. « Êtes-vous blessée ? » m'écriai-je. Il était au milieu du verger. Il s'arrêta en pleine lumière, et tournant sa poitrine vers les bandits qui rechargeaient leurs armes à la croisée, il cria par deux fois. Lagardère ! Lagardère ! Puis il franchit la haie et gagna la rivière. On nous poursuivait. L'Arga est en ce lieu rapide et profonde. Je cherchais déjà des yeux un batelet, lorsque Henri, sans ralentir sa course, et me tenant toujours dans ses bras, se jeta au milieu du courant. C'était un jeu pour lui, je le vis bien. D'une main, il m'élevait au-dessus de sa tête, de l'autre, il fendait le fil de l'eau. Nous gagnâmes la rive opposée en quelques minutes. Nos ennemis se consultaient sur l'autre bord. « Ils vont chercher le guet, » dit Henri. « Nous ne sommes pas encore sauvés. » Il me réchauffait contre sa poitrine, car j'étais trempée et je grelottais. Nous entendîmes bientôt les chevaux galoper sur l'autre rive. Nos ennemis cherchaient le guet pour passer l'Arga et nous poursuivre. Ils comptaient bien que nous ne pourrions leur échapper longtemps. Quand le bruit de leur course s'étouffa au lointain, Henri rentra dans l'eau et traversa de nouveau l'Arga en ligne droite. « Nous voici en sûreté, ma petite Aurore, » me dit-il en touchant le bord à l'endroit même d'où nous étions partis. « Maintenant, il faut te sécher et me panser. » « Je savais bien que vous étiez blessée, » m'écriai-je. « Bagatelle, viens. » Il se dirigeait vers la maison du fermier qui nous avait trahis. Le fermier et sa femme riaient en causant dans leur salle basse, ayant entre eux un bon brasier ardent. Terrasser l'homme et le garrotter en un seul paquet avec sa femme fut pour Henri l'affaire d'un instant. « Taisez-vous !» leur dit-il, car il croyait qu'on allait les tuer et poussait des cris lamentables. « J'ai vu le temps où j'aurais mis le feu à votre taudis, comme vous l'avez mérité si bien. Mais il ne vous sera point fait de mal. Voici l'ange qui vous garde. » Il passait sa main dans mes cheveux mouillés. Je voulus l'aider à se panser. Sa blessure était à l'épaule et saignait abondamment par les efforts qu'il avait faits. Pendant que mes habits séchaient, j'étais enveloppée dans son grand manteau qu'il avait laissé en fuyant dans la chambre du haut. Je fis de la charpie. Je bandai la plaie. Il me dit « Je ne souffre plus. Tu m'as guéri. » Le fermier gentilhomme et sa femme ne bougeaient pas plus que s'ils eussent été morts. Henri monta à notre chambre et redescendit bientôt avec notre petit bagage. Vers 3 heures de nuit, nous quittâmes la maison, montés sur une grande vieille mule qu'Henri avait prise à l'écurie et pour laquelle il jeta 2 pièces d'or sur la table. En partant, il dit au mari et à la femme « S'ils reviennent, présentez-leur les compliments du chevalier de Lagardère et dites-leur ceci. Dieu et la Vierge protègent l'orpheline. En ce moment, Lagardère n'a pas le loisir de s'occuper d'eux, mais leur viendra. » La vieille grande mule valait mieux qu'elle n'en avait l'air. Nous arrivâmes à Estella vers le point du jour et nous fîmes marcher avec un arriéro pour gagner Burgos, de l'autre côté des montagnes. Henri voulait s'éloigner définitivement des frontières de France. Les ennemis étaient des Français. Il avait dessein de ne s'arrêter qu'à Madrid. Nous autres, pauvres enfants, nous avons le champ libre. Notre imagination travaille toujours dès qu'il s'agit de nos parents inconnus. Êtes-vous bien riche, ma mère? Il faut que vous soyez grande pour que cette poursuite obstinée se soit attachée à votre fille. Si vous êtes riche, vous ne pouvez guère vous faire idée d'un long voyage à travers cette belle et noble terre d'Espagne, étalant sa misère orgueilleuse sous les splendides éblouissements de son ciel. La misère est mauvaise au cœur de l'homme. Je sais cela, quoique je sois bien jeune. Cette chevaleresque race des vainqueurs du mort est déchue en ce moment. De toutes leurs anciennes et illustres qualités, ils n'ont guère gardé que l'orgueil. Un orgueil de comédie, drapé dans des lambeaux. Le paysage est merveilleux. Les habitants sont tristes, paresseux, plongés jusqu'au cou dans la malpropreté honteuse. Cette belle fille qui passe, poétique de loin et portant avec grâce sa corbeille de fruits, ce n'est pas la peau de son visage que vous voyez, c'est un masque épais de souillure. Il y a des fleuves pourtant, mais l'Espagnol n'a pas encore découvert l'usage de l'eau. Quand il y a quelque part 100 voleurs de grand chemin, cela s'appelle un village. On nomme un alcade. L'alcade et tous ses administrés sont également gentilshommes. Autour du village, la terre reste en friche. Il passe toujours bien assez de voyageurs, si déserte que soit la route, pour que les 101 gentilshommes et leurs familles aient un oignon à manger par jour. L'alcade, meilleur gentilhomme que ses concitoyens, est aussi plus voleur et plus gourmand. On a vu de ces autocrates manger jusqu'à 2 oignons en 24 heures. Mais ceux qui font ainsi un dieu de leur ventre finissent mal. L'espingole les guette. Il ne faut pas que l'opulence abuse insolemment des dons du ciel. Il est rare qu'on trouve à manger dans les auberges. Elles sont instituées pour couper la gorge aux voyageurs, qui s'en vont sans souper dans l'autre monde. Le posadero, homme fier et taciturne, vous fournit un petit tas de paille recouvert d'une loque grise. C'est un lit. Si par hasard on ne vous a pas égorgé pendant la nuit, vous payez et vous partez sans déjeuner. Inutile de parler des moines et des alguazils. Les gueux à escopettes sont également connus dans l'univers entier. Personne n'ignore que les muletiers sont les associés naturels des brigands de la montagne. Un Espagnol qui a 3 lieues à faire dans une direction quelconque envoie chercher le garde-notes et dicte son testament. De Pampelune à Burgos, nous eûmes des centaines d'aventures, mais aucune qui eût trait à nos persécuteurs. C'est de celles-là seulement, ma mère, que je veux vous entretenir. Nous devions les retrouver encore une fois avant d'arriver à Madrid. Nous avions pris par Burgos afin d'éviter le voisinage des Sierras de la vieille Castille. L'épargne de mon ami s'épuisait rapidement, et nous avancions peu, tant la route était pavée d'obstacles. Le récit d'un voyage en Espagne ressemble à un entassement d'accidents rassemblés à plaisir par une imagination romanesque et moqueuse. Enfin, nous laissâmes derrière nous Valladolid et les dentelles de son clocher sarrasin. Nous avions fait plus de la moitié de notre route. C'était le soir. Nous allions côtoyant les frontières de Léon pour arriver à Ségovie. Nous étions montés tous les deux sur la même mule, et nous n'avions point de guide. La route était belle. On nous avait enseigné une auberge sur l'Adara, où nous devions faire grande chère. Cependant, le soleil se couchait derrière les arbres maigres de la forêt qui va vers Salamanque, et nous n'apercevions nulle trace de posada. Le jour baissait. Les muletiers devenaient plus rares sur le chemin. C'était l'heure des mauvaises rencontres. Nous n'en devions point faire ce soir, grâce à Dieu. Il n'y avait qu'une bonne action sur notre route. Ce fut ce soir-là, ma mère, que nous trouvâmes ma petite Flore, ma chère Gitanita, ma première et ma seule amie. Voilà bien longtemps que nous sommes séparés, et pourtant je suis bien sûre qu'elle se souvient de moi. 2 ou 3 jours après notre arrivée à Paris, j'étais dans la salle basse et je chantais. Tout à coup, j'entendis un cri dans la rue. Je crus reconnaître la voix de Flore. Un carrosse passait, un grand carrosse de voyage sans armoirie. Les stores en étaient baissés. Je m'étais sans doute trompée. Mais bien souvent, depuis lors, je me suis mise à la fenêtre, espérant voir sa fine taille si souple, son pied de fée effleurant la pointe des pavés, et son œil noir brillant derrière son voile de dentelle. Je suis folle. Pourquoi Flore serait-elle à Paris ? La route passait au-dessus d'un précipice. Au bord même du précipice, il y avait un enfant qui dormait. Je l'aperçus la première, et je priai Henri, mon ami, d'arrêter la mule. Je sautai à terre, et j'allai me mettre à genoux auprès de l'enfant. C'était une petite bohémienne de mon âge, et jolie. Je n'ai jamais rien vu de si mignon que Flore. C'était la grâce, la finesse, la douce espièglerie. Flore doit être maintenant une adorable jeune fille. Je ne sais pourquoi, j'eus tout de suite envie de l'embrasser. Mon baiser l'éveilla. Elle me le rendit en souriant, mais la vue d'Henri l'effraya. « Ne crains rien, lui dis-je. C'est mon bon ami, mon père chéri, qui t'aimera puisque déjà je t'aime. Comment t'appelles-tu ? » ?»« Flore, et toi ? » ?»«
Aurore. »
Elle reprit son sourire. « Le vieux poète, murmura-t-elle, celui qui fait nos chansons, parle souvent des pleurs d'Aurore qui brillent comme des perles au calice de la fleur. Tu n'as jamais pleuré, toi, je parie. Moi, je pleure souvent. » Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire avec son vieux poète. Henri nous appelait. Elle mit la main sur sa poitrine et s'écria tout à coup. « Oh, que j'ai faim !» Et je la vis toute pâle. Je la pris dans mes bras. Henri mit pied à terre à son tour. Flore nous dit qu'elle n'avait pas mangé depuis la veille au matin. Henri avait un peu de pain qu'il lui donna avec le vin de Xérès qui était au fond de sa gourde. Elle mangea avidement. Quand elle eut bu, elle regarda Henri en face, puis moi. « Vous ne vous ressemblez pas, » murmura-t-elle. « Pourquoi n'ai-je personne à aimer, moi ?» Ses lèvres effleurèrent la main d'Henri, tandis qu'elle ajoutait. « Merci, seigneur cavalier, vous êtes aussi bon que beau. Je vous en prie, ne me laissez pas la nuit sur le chemin. » Henri hésitait. Les gitanos sont de dangereux et subtils coquins. L'abandon de cet enfant pouvait être un piège. Mais je fis tant, et j'intercédai si bien, qu'Henri finit par consentir à emmener la petite bohémienne. Nous voilà bien heureuses, au contraire de la pauvre mule, qui avait maintenant 3 fardeaux. En route, Flore nous raconta son histoire. Elle appartenait à une troupe de gitanos qui venaient du Léon et qui allaient, eux aussi, à Madrid. La veille au matin, je ne sais à quel propos, la bande avait été poursuivie par une escouade de la Sainte-Hermandade. Flore s'était cachée dans les buissons pendant que ses compagnons fuyaient. Une fois l'alerte passée, Flore voulut rejoindre ses compagnons. Mais elle eut beau marcher, elle eut beau courir, elle ne les trouva plus sur la route. Les passants à qui elle les demandait lui jetaient des pierres. De singuliers chrétiens, parce qu'elle n'était point baptisée, lui enlevèrent ses pendants d'oreilles en cuivre argenté et son collier de fausses perles. La nuit vint. Flore la passa dans une meule, qui d'ordine, heureusement, car la pauvre petite Flore n'avait point dîné. Le lendemain, elle marcha tout le jour sans rien se mettre sous la dent. Les chiens des Quinterias aboyaient derrière elle, et les petits enfants lui envoyaient leur huée. De temps en temps, elle trouvait sur la route l'empreinte conservée d'une sandale égyptienne. Cela la soutenait. Les gitanos, en campagne, ont généralement un lieu de halte et de rendez-vous avant le but du voyage. Flore savait où trouver les siens, mais bien loin, dans une gorge du mont Baladrone, située en face de l'Escurial, à 7 ou 8 lieues de Madrid. C'était notre route. J'obtins de mon ami Henri qu'il conduirait la petite Flore jusque-là. Elle eut place auprès de moi sur ma paille, à l'hôtellerie. Elle eut part de la splendide marmite pourrie qui nous fut servie pour notre souper. Ces olias podridas de la Castille sont des mets qu'on se procurerait difficilement dans le reste de l'Europe. Il faut, pour les faire, un jarret de porc, un peu de cuir de bœuf, la moitié de la corne d'une chèvre morte de maladie, des tiges de choux, des épluchures de rave, une souris de terre et un boisseau et demi de gousse d'ail. Tels furent du moins les ingrédients que nous reconnûmes dans notre fameuse « marmite pourrie » du bourg de Saint-Lucar, entre Pesquera et Ségovie, dans l'une des plus somptueuses auberges qui se puissent trouver dans les états du roi d'Espagne. À dater du moment où la jolie petite Flore fut notre compagne, la route devint moins monotone. Elle était gaie, presque autant que moi, et bien plus avisée. Elle savait danser, elle savait chanter. Elle nous amusait en nous racontant les tours pendables de ses frères les gitanos. Nous lui demandâmes quel dieu ils adoraient. Elle nous répondit « une cruche ». Mais à Zamor, dans le pays de Léon, elle avait rencontré un bon frère de la miséricorde, qui lui avait dit les grandeurs du Dieu des chrétiens. Flore désirait le baptême. Elle fut 8 jours entiers avec nous, le temps d'aller de Saint-Lucar de Castille au mont Baladrone. Quand nous arrivâmes en vue de cette montagne sombre et rocheuse où je devais me séparer de ma petite Flore, je devins triste. Je ne savais pas que c'était un pressentiment. J'étais habituée à Flore. Nous allions depuis 8 jours, assises sur la même mule, nous tenant l'une à l'autre, et babillant tout le long du chemin. Elle m'aimait bien, moi je la regardais comme ma sœur. Il faisait chaud, le ciel avait été couvert tout le jour, l'air pesait comme aux approches d'un orage. Dès le bas de la montagne, de larges gouttes de pluie commencèrent à tomber. Henri nous donna son manteau pour nous envelopper toutes deux, et nous continuâmes de grimper, pressant notre mule paresseuse sous une torrentielle averse. Flore nous avait promis l'hospitalité la plus cordiale au nom de ses frères. Une ondée n'était pas faite pour effrayer mon ami Henri, et nous deux, Flore et moi, nous étions d'humeur à partager la plus terrible tempête sous l'abri flottant qui nous unissait. Les nuées couraient, roulant l'une sur l'autre, et laissant parfois entre elles des déchirures où apparaissait le bleu profond du ciel. La ligne de l'horizon, vers le couchant, semblait un chaos empourpré. C'était la seule lumière qui restât au ciel. Elle teignait tous les objets en rouge. La route grimpait en spirale une rampe raide et pierreuse. Les rafales étaient si fortes que notre mule tremblait sur ses jambes. « C'est drôle, m'écriai-je, comme cette lumière fait voir toutes sortes d'objets. Là-bas, à la crête de ce roc, j'ai cru apercevoir deux hommes taillés dans la pierre. » Henri regardait vivement de ce côté. « Je ne vois rien, » dit-il. « Ils n'y sont plus, » prononça Flore à voix basse. « Il y avait donc réellement deux hommes ?» demanda Henri. Je sentis venir en moi une vague terreur que la réponse de Flore augmenta. « Non pas deux, » répliqua-t-elle, « mais 10 pour le moins. »«
Armés ?»«
Armés. Ce ne sont pas tes frères ?»«
Non, certes. »
« Et nous guettent-ils depuis longtemps ?»«
Depuis hier matin, ils rôdent autour de nous. »
Henri regardait Flore avec défiance. Moi-même, je ne pus me défendre d'un soupçon. Pourquoi ne nous avait-elle pas prévenus ?
J'ai cru d'abord que c'était des voyageurs comme vous, dit-elle, répondant d'elle-même et d'avance à notre pensée.
Ils suivaient le vieux sentier vers l'ouest. Nos hidalgos font presque tous ainsi. Il n'y a guère que le menu peuple à fréquenter les routes nouvelles. C'est seulement depuis notre entrée dans la montagne que leurs mouvements me sont devenus suspects. Je ne vous ai point averti, parce qu'ils sont en avant de nous désormais, et engagés dans une voie où nous ne pouvons plus les rencontrer. »
Elle nous expliqua que la vieille route, abandonnée à cause de ses difficultés, passait du côté nord de Baladron, tandis que la nôtre tournait de plus en plus vers le sud à mesure qu'on approchait des gorges. Les deux routes se réunissaient à un passage unique, appelé El Paso de los Rapadores, bien au-delà du campement des Bohémiens. Par le fait, en avançant dans l'intérieur de la montagne, nous n'aperçûmes plus ces fantastiques silhouettes découpant leurs profils sur le ciel écarlate. Les roches étaient désertes, aussi loin que l'œil pouvait se porter. On apercevait d'autres mouvements que le frémissement des êtres agités par la rafale.